Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manelakiza. Avec vous, au micro, la mise en onde est assurée par Michel Claire-Joseph. Ce soir, nous parlons de la diversité religieuse. En Israël, les principales religions sont le judaïsme, l'islam et le christianisme. Le judaïsme est la religion dominante avec une grande majorité de la population juive. L'islam est pratiqué par une minorité significative de citoyens arabes et israéliens, tandis que le christianisme est suivi par une petite partie de la population, principalement des Arabes chrétiens. En Palestine, y compris la Cisjordanie et la bande de Gaza, la majorité de la population est musulmane. Il y a aussi une importante minorité de chrétiens, en particulier à Bethléem et dans d'autres villes historiques. Le judaïsme est également présent, bien que la population juive soit relativement petite en Cisjordanie et à Gaza. Les questions religieuses jouent un rôle significatif dans le contexte politique et social de la religion, en particulier en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le père Grégor Prijotko, originaire du Kazakhstan. Il est docteur en droit canonique de l'Institut catholique de Paris et docteur en droit de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté des sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Père Grégor, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans le dialogue des religions.
Merci beaucoup.
Mon père, comment les religions du judaïsme, de l'islam et du christianisme sont-elles liées à l'histoire et à la culture d'Israël et de la Palestine ?
On peut même dire que Israël, donc le territoire actuel d'Israël et le territoire palestinien, c'est vraiment pour les trois religions mondiales monothéistes, c'est la terre la plus sacrée, parce que on sait très bien que le judaïsme a ses racines sur cette terre depuis que Abraham a acheté un petit terrain pour ensevelir sa femme Sarah, et donc cela devient déjà à partir de ce moment-là un lieu saint et la terre sainte pour Israël entier. Ensuite, bien évidemment, pour les chrétiens, toute la vie du Christ et ses racines se forment autour de Jérusalem, Bethléem, Jérusalem, Nazareth, etc. Et puis, bien évidemment, pour les musulmans, c'est la terre, le troisième sanctuaire, pour ainsi dire, troisième lieu saint où le prophète Mohammed a effectué son voyage nocturne à Jérusalem, Isra, qui est décrit dans le Coran. Je dirais que la vie quotidienne de ces gens qui se côtoient depuis des siècles est bien évidemment imprégnée par la religion, par la pratique religieuse. Ce qui n'était pas toujours très évident dans le sens de une coexistence pacifique, bien sûr, entre les religions en Terre Sainte.
Et comment les interactions interreligieuses au quotidien affectaient-elles la vie des gens dans cette région ?
Il est vrai que cette région, quand on regarde l'histoire, était très rarement indépendante. Ça veut dire que chaque fois il y a eu une occupation, quand on parle de l'occupation romaine ou par la suite l'Empire ottoman, etc. Ensuite les différents protectorats. À toutes les étapes de cette histoire, les gouverneurs, qui bien souvent n'appartenaient pas à une religion particulière, sauf après la conversion de Constantin au christianisme, devaient gérer cette coexistence des croyants avec leurs pratiques ferventes devaient imposer aussi les lois qui pourraient permettre cette coexistence de la manière la plus paisible possible. Et surtout, toute la législation concernant cette coexistence a été élaborée à l'époque donc de l'Empire ottoman, notamment par le sultan Mehmed II et les autres sultans qui ont accordé aux différentes communautés habitant dans leur empire et sur le territoire d'Israël-Palestine actuel des statuts particuliers avec le droit de propriété sur les sanctuaires, avec aussi certains privilèges. Et quelquefois, les communautés catholiques ou orthodoxes ou autres communautés, par des moyens même de corruption, essayaient d'obtenir les firmants de la Sublime Porte, donc les documents qui affirmaient leur statut, qui leur donnaient certaines possibilités en face d'autres communautés, ce qui menait souvent au conflit. Par exemple, entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques au XVIIIe siècle, ce qui a finalement est terminé à la reconnaissance d'un statu quo qui est la loi actuelle jusqu'à maintenant. Ce statu quo qui était élaboré en 1757, confirmé par le traité de Paris en 1856 et qui reste la loi de coexistence de toutes les communautés présentes dans la région qui leur garantit cette liberté de culte, mais à la fois qui en quelque sorte permet au mieux d'assurer la vie paisible entre les communautés qui peuvent avoir dans leur ferveur religieuse quelquefois des conflits les uns les unes avec les autres.
En quoi la religion a-t-elle évolué au fil du temps dans cette région et comment cela affecte-t-il et comment cela a-t-il affecté les dynamiques politiques actuelles?
Oui. Encore une fois, quand on regarde les étapes de développement de cette région avec cette terre sainte considérée par les Juifs comme leur terre d'origine, la terre promise, ce qui est très fort justement dans l'existence, la conscience d'appartenance à un peuple qui est un peu qui se considère comme un peuple élu et qui est lié à cette terre, la terre où Dieu seul est le maître. Ensuite, avec la conversion au christianisme des empereurs romains, quand cette province anciennement appelée Palestina, donc cette province romaine, ça vient du nom de Philistie, donc les Philistins qui habitaient la région avant. Et donc, pour les chrétiens, les lieux saints, le tombeau du Christ, le lieu où le Christ est mort et ressuscité, et qui forme le centre de la foi chrétienne, devient quelque chose de très important. C'est en ce moment-là, déjà à partir du IVe siècle, les pèlerinages sont organisés depuis très loin, depuis l'Europe. Et il y a notamment, par exemple, un journal d'une pèlerine Eteria qui décrit jour par jour comment se passe la Semaine Sainte à Jérusalem au IVe siècle. Et ensuite, avec la venue des musulmans au XIIIe siècle, les sultans sont quand même très portés sur la sauvegarde de cette liberté religieuse. Les sultans permettent l'accès libre des chrétiens au tombeau du Christ et instaurent cette custodie de la Terre Sainte confiée aux franciscains jusqu'à maintenant, pour s'occuper des pèlerins qui viennent en cette terre. Puis pour les musulmans, ensuite, troisième lieu saint dans la religion musulmane, que devient Jérusalem, et dans les différents commentaires des savants musulmans qui donnent à cette ville une importance aussi primordiale pour pouvoir cohabiter en paix. Il est vrai que c'est pas toujours très facile, mais c'était surtout les sultans ottomans qui ont établi ce mode de vie, ce statu quo que nous utilisons aujourd'hui pour que dans cette évolution de la présence religieuse, parce qu'il est vrai que dans l'État d'Israël, par exemple, quand même, surtout avec le gouvernement actuel qui est de l'extrême droite, quelquefois, les autres religions se sentent un petit peu lésées. Et on en a parlé que juste avant ce conflit qui se produit aujourd'hui, quelques jours avant ce conflit, et les chrétiens se sont plaints, notamment les chrétiens orthodoxes ou les chrétiens catholiques qui faisaient leur chemin de croix quand les habitants juifs radicaux venaient leur cracher dessus. Le gouvernement a dit qu'il n'admettra pas de comportements pareils, mais quand même, il y a toujours eu des tensions. Peut-être, à certaines époques, c'était à cause de les forces qui contrôlaient sous le mandat britannique, par exemple, ou sous les sultans ottomans, où la force venait de l'extérieur, en quelque sorte, pour établir les règles. Cette coexistence était plus pacifique. Mais on remarque bien, quand il y a une des religions qui commence à avoir plus d'importance, les autres commencent à être lésées. Et établir l'équilibre est très compliqué.
Pouvez-vous expliquer comment les fêtes religieuses et les rituels sont célébrés et comment ils unissent ou divisent les communautés ?
Alors, concernant les fêtes religieuses, nous savons que le pèlerinage annuel à Jérusalem est vraiment quelque chose d'essentiel pour la religion juive. Et il y a le proverbe, quand les Juifs se saluent entre eux, ils se disent « alors on se verra à Jérusalem ». Ça veut dire que voilà, c'est un lien qui unit le peuple qui est éparpillé partout dans le monde, qui unit les judaïsmes des courants très différents. Nous savons qu'il y a des courants très, très orthodoxes dans le sens de leur même, on dirait, radicalité de leur vie de cette foi. Il y en a d'autres qui sont très humanistes, qui néanmoins tous sont imprégnés par l'importance de ces lieux saints dans la vie et leur pratique quotidienne, leur pratique religieuse. Nous savons que devant le mur de Lamentation, les pèlerins juifs affluent quotidiennement pour pouvoir prier devant ce bout de l'ancien temple de Jérusalem, dont ils espèrent un jour la reconstruction, le rétablissement de royauté de Dieu sur Israël. Nous pensons aux pèlerins chrétiens et aux chrétiens qui demeurent depuis pratiquement l'époque chrétienne, le début de l'époque chrétienne, avec Saint Jacques, premier chef de l'Église de Jérusalem, et puis à toutes les époques que ces chrétiens ont traversées, qui sont aussi, font partie de l'histoire de ce pays depuis la venue du Christ. À qui ces lieux sont chers, ils les considèrent comme faisant partie de leur essence même. Voilà. Et ensuite aussi les musulmans qui sont présents dans la région et qui sont enracinés également. Dans les rites, il n'y a pas beaucoup de conflits entre les trois religions. Je dirais, au sein des églises chrétiennes, quelquefois, surtout en ce qui concerne la basilique de la résurrection, le Saint-Sépulcre, quelquefois on voit des conflits qui peuvent être assez étonnants quand il y a deux processions qui se rencontrent, par exemple, de l'église arménienne et en face du patriarcat grec, et qui ont une situation conflictuelle qui commence. Il faut appeler la police pour pouvoir séparer les moines qui se commencent à se battre entre eux. Quelquefois, justement, c'est le Saint-Sépulcre qui devient un lieu à la place de réunir, justement, rien que chrétiens, un lieu des petits conflits insignifiants, bien sûr, mais quand même qui sont révélateurs de quelque chose d'important. Et on sait très bien que on peut avoir des sympathies ou peut-être des antipathies vis-à-vis d'autres personnes, ce qui est un petit peu naturel. Mais quand la religion chrétienne, qui est la religion d'amour, commence à s'exprimer quelquefois par ses... cela concerne surtout la Semaine Sainte, quand les orthodoxes, les célébrations des orthodoxes et des catholiques sont séparées, c'est vrai, parce que il y a le calendrier qui n'est pas le même, mais tout le monde a un règlement pour à l'accès à lieu saint, et quand ce règlement, encore une fois, n'est pas respecté, on risque d'avoir des petits conflits qui sont tout à fait ridicules, mais quand même qui sont révélateurs de ce désir de s'approprier les lieux saints. Bon, peut-être le désir en soi-même, il n'est pas mauvais. On veut être imprégné de la sainteté de lieu, mais on le réserve exclusivement pour soi-même et pas pour les autres. Et c'est cela qui peut créer éventuellement des conflits.
Comment les textes sacrés et les traditions religieuses des deux côtés du conflit sont-ils interprétés de manière à soutenir ou à promouvoir la paix ?
Les textes religieux, nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il existe des textes où Dieu appelle à la violence. C'est incontestable. Encore une fois, il faut savoir, plutôt avoir une interprétation juste. Bien évidemment, tous les chrétiens, qu'on soit ces textes de Lévitique ou autres, en tant que les expressions des événements qui ont été liés à un contexte politique ou religieux, surtout politique, des invasions, des déportations, etc., dans un contexte historique particulier, donc cela relève de passé. Il n'y a pas de lecture fondamentaliste chez les chrétiens de ces passages-là. Ça appartient à l'histoire désormais, liée à l'histoire propre de peuple juif qui devait survivre dans les conditions très, très difficiles et compliquées, comme nous le savons. Chez les juifs aussi, il y a une différence d'interprétation de ces textes. La plupart, quand même, aussi les classent dans le passé historique, donc il n'y a pas d'appel à la violence. La preuve que le grand rabbin de Jérusalem, il appelait à la justice du Très-Haut, mais en vue de la paix. Et son message était porté sur le désir de la paix et la prière. Et le jeûne que tous les juifs ont commencé pour Israël sont tournés vers la paix. Donc il n'y a pas d'appel à la violence. En ce qui concerne les courants musulmans, nous savons très bien qu'il y a des courants très, très différents. Dans la plupart de cas, les textes, parce que dans le Coran, nous savons qu'il y a 6300 versets, où à peu près 300 incitent au combat ou à la violence, et il y a que 5 textes qui contiennent un appel à tuer l'ennemi. Mais encore une fois, les interprétations dans la majorité des courants musulmans sont de gens spirituels. Par exemple, on cite un combat spirituel, c'est nos péchés ou nos faiblesses que nous avons à éliminer, et c'est nos péchés qui sont nos ennemis. Mais hélas, il existe aussi des courants qui ont une lecture fondamentaliste de ces versets, et qui veulent ou désirent les appliquer à la lettre. C'est par exemple la lecture du Coran taliban, wahhabite, etc., qui font cette lecture. Donc c'est vraiment une attitude très combative qui ne recherche pas du tout la paix. On fait de la vie vraiment une guerre. C'est cela qui c'est cette minorité, mais qui fait beaucoup, qui cause beaucoup de souffrance maintenant dans le monde, en Proche-Orient et partout où ces courants sont présents.
Et dans quelle mesure les enseignements religieux des deux côtés peuvent-ils être un facteur de division et comment peuvent-ils être utilisés comme des catalyseurs pour la réconciliation et la compréhension mutuelle?
Je crois que les enseignements religieux des deux côtés, donc si on prend le monde palestinien et puis le monde israélien, de toute façon, les deux religions se définissent comme les religions qui recherchent la paix. Souvenons que l'islam veut dire la religion de paix et Jérusalem, Yerushalayim, c'est la cité de la paix. Mais nous savons que malheureusement, à Jérusalem, la paix était toujours très instable depuis toujours. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, très lointaine ou très récente, voilà, on voit qu'il y a toujours des difficultés dans la recherche de cette paix désirée tant par tous. Je crois que c'est surtout l'enseignement qui se base sur la recherche de la paix qui pourrait peut-être, en quelque sorte, catalyser les efforts communs pour la rechercher. Mais dans les conflits très frais, il faut qu'il y ait de temps qui puisse passer parce que les blessures sont trop douloureuses pour l'instant pour que les uns et les autres puissent se tourner vers cette solution. Donc c'est la question vraiment très 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 difficile. Concernant les divergences d'enseignement religieux des deux côtés, je viens de l'expliquer que malheureusement les textes sacrés, on peut les interpréter et les courants politiques n'hésitent pas à les interpréter comment cela les arrange, donc pour pouvoir justifier leurs propres crimes quelquefois. Par conséquent, c'est très compliqué de trouver un point de vue commun sur le problème.
Y a-t-il des exemples de succès où des leaders religieux, musulmans, orthodoxes ou judaïques et catholiques ont collaboré pour promouvoir la paix et la compréhension interreligieuse dans cette région et dans cette partie du monde, Israël, Palestine? On parle du conflit Israël et le Hamas.
Exactement. Déjà, souvenons-nous que le pape Saint Jean-Paul II a institué les rencontres d'assises où les différents leaders des communautés religieuses des religions du monde se rassemblaient pour pouvoir dialoguer ensemble. Et souvenons-nous qu'il y avait sous Benoît XVI la rencontre des deux leaders, donc le président israélien, le premier ministre israélien et le président palestinien, au Vatican, où le pape les a invités à prier ensemble, et où ils ont planté d'ailleurs un arbre d'olivier qui symbolisait ce désir de la paix. Mais cette paix s'est révélée très 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 fragile finalement. Et actuellement, le Saint-Père, aujourd'hui même, il a fait une intervention lors de son audience de mercredi en appelant à la paix en Israël, en appelant tous les dirigeants à catalyser leurs efforts pour cette paix et surtout épargner la population civile des deux côtés, ce qui est inadmissible. Donc, en ce qui concerne les réussites, je ne sais pas si vraiment ces rencontres d'assises, c'était des tentatives qui finalement nous voyons que peut-être qu'il faut continuer bien évidemment ces initiatives-là. Il y a eu une rencontre vraiment extraordinaire le 4 octobre, donc juste 3 jours avant le début de cette guerre, qui a réuni à Jérusalem les femmes palestiniennes et les femmes juives, qui ont fait une marche pour la paix. Et cette fois-ci, c'était vraiment quelque chose de très fort, un signe très fort, parce que on voyait que ces personnes ne veulent pas la guerre, que quand on regarde les cadres de cet événement, c'était pas particulièrement religieux, parce que c'était les femmes qui ont eu cette initiative, mais 3 jours après, il y en a plusieurs, d'un côté comme de l'autre, qui ont été tuées dans cette attaque. Et quelquefois, vraiment, l'espérance de trouver une solution devient tellement éphémère que il faut, à mon avis, vraiment que les leaders religieux puissent consolider leurs efforts dans la recherche de la paix.
Et c'est la fin de ce dialogue des religions. Eric Manelakis a été avec vous. On parlait de la diversité religieuse en Israël et en Palestine. Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une